Vous écoutez Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison, un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie.
Bonjour tout le monde, c'est Jérémy pour Scepticisme Scientifique et aujourd'hui je suis avec Manon Jack. Salut Manon.
Salut.
Voilà, donc tu es en fait la créatrice d'une chaîne YouTube et c'est pour en parler qu'on t'a invité aujourd'hui. Une chaîne qui s'appelle Ethnochronique.
C'est
et
ça.
Que tu as créée il y a à peu près un an, si je ne me trompe pas, un petit peu plus maintenant, un an et.
Non, c'était en mai, fin du mois de mai 2020.
Ok, ça fait à peu près un an.
Une chaîne
vraiment sympa et qui parle d'ethnologie, donc on va pouvoir parler un petit peu de ça, et qui vient remplir un vide, puisqu'il n'y a pas, rien du tout en niveau francophone sur l'ethnologie en vidéo, sur YouTube, c'est un peu le vide total, donc c'était plutôt une bonne surprise de voir l'apparition de ta chaîne.
Ouais, enfin, il y a des archéologues qui ont un peu de connaissances en anthropologie ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que pure ethnologie, non, j'en ai pas trouvé.
Ouais, donc ça c'est assez chouette et j'ai vraiment beaucoup aimé ta chaîne. On va pouvoir en parler un petit peu, mais voilà, j'aime beaucoup le format, le montage, les thématiques. Il y a plein de trucs chouettes et je pense que c'est aussi très accessible pour tout le monde. Il y a un peu différents niveaux de technicité, si on peut dire, hein. Il y a un peu de format, hein. Un format plus court et un format plus long. On va pouvoir en parler un petit peu. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être pour les auditeurs, les auditrices, de commencer par te présenter un petit peu et présenter un petit peu ton projet, peut-être.
Ouais, je m'appelle Manon, j'ai 29 ans, je viens du sud de la France et j'ai fait pas mal d'études. Moi, à la base, mon rêve d'enfance, c'était d'être photoreporter, un peu comme Salgado, tout ça. Du coup, j'ai fait des études dans l'audiovisuel, j'ai fait des études dans le journalisme. Alors, j'étais un petit peu dans plein de domaines comme ça. J'ai voyagé un maximum dans le monde. J'ai vécu dans des pays anglophones et tout ça. Mmh. Et puis, j'ai fini par faire ce master d'anthropologie qui a été une révélation. C'était tout ce que je cherchais dans les études depuis toujours. Après ça, j'ai travaillé en tant que journaliste un petit peu, mais c'était assez compliqué de se faire une place. C'est un domaine qui est un petit peu fermé. Et puis j'ai décidé de faire ces vidéos. Puis j'avais des amis quand j'étais à la fac qui me disaient souvent que c'était un peu intéressant ce que je leur racontais quand je leur parlais de mes cours, qui me disaient ça serait super que tu fasses un podcast ou des vidéos ou quelque chose. Et puis ça m'a pris 3-4 ans pour avoir le déclic. Et ouais, pendant le dernier confinement, je me suis dit, allez, je vais commencer à faire ça. Voilà, tout simplement.
Super, bah oui, c'est chouette. C'est vrai que j'ai vu aussi un petit peu ton site photo, où il y a aussi beaucoup, beaucoup de contenu qui est plutôt sympa, notamment des photos
cool.
À Sydney, du côté de Sydney, où il y a des paysages que j'ai beaucoup aimé aussi.
Que tu connais aussi, ouais.
Non, que je connais pas, mais que j'ai beaucoup aimé voir les photos sur ton site, en tout cas. Et donc, du coup, tu as un master en ethnologie.
Ouais.
Est-ce que tu peux un petit peu, pour les auditeurs et les auditrices, expliquer brièvement, du coup, qu'est-ce que c'est finalement l'ethnologie?
Ouais, c'est ce qu'on appelle la science de l'homme. Ça se rapproche un petit peu de la sociologie, etc. Mais concrètement, le concept, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est des êtres humains, en étudiant les rites, les mythes des sociétés à travers le monde, à travers le temps. À l'inverse d'un historien, on ne va pas du tout travailler avec une chronologie. On essaye de trouver des invariants. Enfin, il y a beaucoup, en tout cas, d'anthropologues qui cherchent à faire ça, à trouver des invariants pour essayer de déterminer qu'est-ce que c'est qu'un être humain.
Ok. Et je pense qu'il y a des gens qui se poseront un petit peu la question, mais est-ce qu'il y a une différence du coup entre l'ethnologie et l'anthropologie?
Alors ça, c'est un peu touchy parce que du coup, pour certains, il y a une différence et pour d'autres, non. Moi, dans l'éducation anthropologique, si je peux dire, que j'ai reçue, on m'a plutôt enseigné qu'il n'y en avait pas. Chez les auteurs que j'ai lus, je n'en trouve pas, si ce n'est que ça serait une question linguistique, en fait. Anthropologie, ça vient du mot anglais, anthropology, et ethnologie, ça serait son penchant français. Après, il y a d'autres spécialistes de la discipline qui considèrent que on a d'abord l'ethnographie, donc ça c'est l'étude de terrain, bon ça tout le monde est OK là-dessus. Ensuite, l'ethnologie qui va être l'analyse des études du terrain et l'anthropologie qui va être l'analyse de l'ethnologie. Bon, voilà, c'est des points de vue quoi, c'est un peu des points de vue, mais c'est vrai que du coup la différence à mes yeux, entre anthropologie et ethnologie, j'ai jamais vraiment réussi à voir où est-ce qu'elle pouvait se trouver, quoi.
C'est
Voilà.
ça, oui, ok. Oui, c'est vrai que moi je me rappelle mes cours d'anthropologie sociale et culturelle en psycho. En gros, c'était le cours d'ethnologie, mais ça s'appelait anthropologie sociale et culturelle et
Ouais.
j'ai
Ouais,
pas.
ouais.
Il n'y avait pas d'évocation de cette différence, en tout cas à l'UNIF ici en Belgique où moi j'ai été, quoi.
Ouais, tout à fait. Et puis il me semble que si on regarde un peu sur les universités en France, il va y avoir des universités qui vont proposer des licences d'ethnologie, d'autres des masters d'anthropologie, d'autres des licences ou des masters qui vont s'appeler ethnologie et anthropologie. Bon, voilà, je.
C'est un peu pareil en gros, quoi. Voilà.
Ouais,
Ce qu'on voit un peu
à
comme.
mes yeux en tout cas, ouais.
Ok. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter un petit peu plus le type de contenu qu'on peut trouver sur ta chaîne? Enfin, finalement, comment est-ce que tu définis ce que tu essayes de présenter ou ce dont tu parles Qu'est-ce
Ouais, carrément.
qui.
Bah, du coup, le concept, c'était de faire vraiment des vidéos de vulgarisation parce que l'anthropologie, comme beaucoup de sciences sociales ou de ce qu'on va appeler sciences molles, entre guillemets, ça a tendance à avoir un vocabulaire qui est super complexe, des théories qui sont vraiment très, très inaccessibles. Et c'est un petit peu dommage. Enfin, des fois, quand j'épluche des articles pour écrire mes vidéos, je dois passer 10 minutes sur chaque phrase pour la décortiquer, la comprendre. Et je trouvais ça un peu dommage parce que les sciences sociales, elles sont pour moi très importantes pour notre compréhension du monde et elles devraient être beaucoup plus accessibles. Quand j'ai découvert un peu les concepts de pensée en anthropologie, j'ai eu beaucoup l'impression en fait de comprendre ce que j'avais appris en philo, parce qu'on fait de la philo en France au lycée. Et en fait, pour moi, l'anthropologie, c'était juste de la philosophie, mais appliquée à des gens qui existent pour de vrai, qui ont vraiment vécu, à la vraie vie. Et du coup, j'avais très envie de partager ça, parce que je pense que c'est capital et essentiel de comprendre le monde dans lequel on vit pour pouvoir s'ouvrir un petit peu l'esprit et puis penser avec un petit peu plus de tolérance et tout ça. Et du coup, voilà, le format de vidéo que j'essaye de faire, c'est vraiment de résumer dans chaque vidéo un concept anthropologique le plus simplement possible. Donc, par exemple, j'ai fait une vidéo sur le rite des hommes crocodiles, qui est un rite de passage à l'âge adulte en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En soi, ce rite de passage à l'âge adulte, j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu, c'est juste un exemple, ce rite de passage. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est de comprendre comment fonctionnent les rites de passage et aussi la pensée qu'on peut retrouver en Papouasie-Nouvelle-Guinée par rapport bah, au rite de passage à l'âge adulte, donc ça implique la sexualité, etc., etc. Après, je vais faire comme ça des vidéos où je vais plutôt donc partir d'un exemple de société, donc d'un rite, d'un mythe, de quelque chose comme ça. Et parfois, je vais faire l'inverse, donc je vais partir d'un concept d'anthropologie et je vais l'illustrer avec, avec bah, des rites, des mythes, encore une fois. Donc, par exemple, la vidéo que j'ai faite sur les liens de parenté, c'est comme ça, je démarre avec la théorie générale et après je l'illustre avec plein d'exemples, les parentés à plaisanterie, etc., etc. Voilà.
Oui, c'est vrai que cette question de la parenté, c'est un truc qui est vraiment très très important en anthropologie.
Ouais, c'est assez capital, ouais. Tout revient un petit peu vers la parenté. Et Lévi-Strauss avait énormément travaillé dessus. Et puis, et c'est aussi important, c'est parce que finalement, un des seuls invariants, justement, donc un des seuls points communs à l'humanité, et donc un des seuls moyens de définir qu'est-ce qu'un être humain, ça se retrouve dans la parenté, parce que c'est tout simplement l'interdit de l'inceste, en fait, qui permet de créer des sociétés. Beaucoup plus que d'éviter des unions génétiquement dangereuses, en fait. On a tendance à croire qu'on ne se reproduit pas en famille pour éviter des unions qui créeraient des êtres humains avec des gros problèmes génétiques, mais la vérité, c'est que c'est pas vraiment ça la motivation première, a priori. C'est plus d'avoir un groupe qui est le plus grand possible en s'unant avec des gens qui viennent d'autres groupes. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de l'exogamie ou la prohibition de l'inceste, et c'est Lévi-Strauss qui a mis ça en lumière dans les années 60, mais je dis peut-être une bêtise là, mais en tout cas dans ces eaux-là.
Est-ce qu'il y a d'autres invariants comme ça qu'on retrouve dans toutes les
Eh
cultures,
bah,
dans toutes
pas
les sociétés?
vraiment. Pas vraiment. Et c'est pour ça, je pense, que la parenté est autant au cœur de l'anthropologie. Il y a Après, on peut parler de plein de sujets et voir que, bah, par exemple, la croyance, oui, la croyance, effectivement, ça revient un petit peu partout. Il y a pas mal de choses qui reviennent, mais sous des formes différentes, alors que la loi de l'exogamie, elle est claire et nette. Et pour le coup, c'est un invariant qui ne change pas, parce que les autres points communs à l'humanité, donc comme par exemple la foi, ou je sais pas, le commerce, enfin l'économie, ce sont là. On ne peut pas vraiment appeler ça des invariants parce que ça va exister sous des formes ultra différentes. Et donc, ce n'est pas vraiment des invariants.
Ouais, ça, en t'entendant, je repense à cette autre, je pense, grosse polémique qu'il y a eu autour des travaux et des affirmations de Freud à l'époque qui prétendait qu'on pouvait retrouver le complexe d'Œdipe dans toutes les sociétés et qui a été un peu
Ouais.
débunké après par Malinowski avec son travail sur les sociétés je pense que c'est les sociétés mélanésiennes hein, si ma mémoire est bonne, ça date un peu mais je sais
Oui,
pas
c'est
si
le
tu...
Pacifique, quoi.
Ouais.
Malinowski, oui, c'est surtout le Pacifique. Ouais, complètement, complètement, c'est un bon exemple. Et puis, même là, pour ma prochaine vidéo, je travaille sur la sexualité. Et même ça, qu'on pourrait catégoriser comme instinct animal, finalement, bon, je ne veux pas complètement spoiler ma vidéo, mais on comprend vite que non, ce n'est même pas un instinct animal parce qu'on est très, très déterminé par la société dans laquelle on vit. Alors ça, bon, il y a peut-être des spécialistes en sciences sociales qui ne seront pas d'accord avec ça, mais c'est vrai que je trouve que l'anthropologie, elle démontre quand même vraiment beaucoup que le déterminisme a un impact super puissant sur nos sociétés.
Ouais, tout à fait. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Surtout qu'on a quand même, je pense, souvent tendance à penser que parce qu'il y a des normes dans notre société, que c'est basé sur des choses génétiques ou biologiques, alors que bah, pas forcément.
Eh ouais, pas forcément, vraiment pas forcément. Le déterminisme est vraiment extrêmement puissant. Moi, quand je faisais mes études, je comprenais tellement qu'en fait, tout était questionnable, que tout nécessitait une prise de recul et que tout était vraiment issu d'une espèce de catégorie socioculturelle comme ça. Quand je dis catégorie socioculturelle, c'est pas forcément restreint, hein. Ça peut être à l'échelle mondiale. Ça avait sur soi mis à douter un petit peu de tout, quoi, de ma façon de voir les couleurs, par exemple. Et puis, un peu contre, et je trouve quand même intéressant, de deux linguistes qui s'appellent Sapir et Whorf, qui pensent que, comment dire, le vocabulaire va avoir un impact vraiment puissant sur notre perception de la société. J'avais fait une de mes premières vidéos là-dessus. Ils avaient fait une expérience dans laquelle ils avaient demandé à des gens de différentes sociétés de trier des palettes de couleurs. Donc, il y en avait des jaunes, des verts, des rouges, etc. Et puis, il y a une ethnie d'Amérique centrale, il me semble, ou soit du sud des États-Unis, soit d'Amérique centrale, qui, dans son vocabulaire, ne distingue pas le jaune et le orange. Et il s'avère que quand ils ont trié ces palettes de couleurs, ils ont séparé toutes les couleurs, sauf le jaune et le orange, parce que comme ça n'existe pas dans leur vocabulaire, bah même visuellement, ça n'existe plus non plus, en fait. Et c'est ça que j'entends par déterminisme de notre société, en fait.
Oui, c'est une hypothèse qui est assez intéressante, hein. En psychologie aussi, c'est un truc qui est évoqué, c'est un exemple vraiment intéressant, je pense, pour comprendre un peu les nuances par rapport à nos perceptions, que ce soit pas
Ouais.
que des perceptions purement mécaniques, mais que notre perception elle est aussi influencée par notre pensée, notre culture.
C'est ça, c'est ça. Et qu'au final, on pense qu'on a un libre arbitre, mais en fait, on a un libre arbitre dans un certain panel de choix, au final. On n'a pas un libre arbitre qui est complètement ouvert. Par exemple, on ne pourra jamais comprendre. Il y a de ça aussi, en fait, dans l'ethnologie, dans l'anthropologie. Il y a comprendre qu'on ne peut pas comprendre, en fait. Accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Typiquement, des sociétés d'Amazonie où la négation n'existe pas. Je trouve que c'est un exercice pour nous, chez qui la négation existe dans le langage, je trouve que c'est un exercice de visualisation qui est quasiment impossible, en fait, de s'imaginer vivre sans négation. Et encore que là, voilà, depuis tout à l'heure, je parle que de vocabulaire, mais il y a plein d'autres conceptions du monde qui pourraient rentrer là-dedans. J'ai déjà eu des gens qui m'ont posé des questions sur l'alimentation, qui m'ont demandé comment c'était possible qu'une société de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui se nourrit depuis 125 000 ans de ceci et de cela n'ait pas de carence en B12, en ceci, en cela. J'avais trouvé cette question assez folle parce que, bien évidemment qu'ils n'ont pas de carence dans ces matériaux-là, parce que matériaux, je ne sais pas si on peut dire matériaux, mais tu vois ce que je veux dire. Bien sûr qu'ils n'ont pas de carence avec ces vitamines-là, étant donné que leur société évolue sans depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années. Et ça, je trouve qu'en tant comment dire, que membre de la société globalisée majoritaire, on a du mal à comprendre qu'il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme nous. Et même biologiquement, en fait, qui ne fonctionnent pas comme nous, mais parce que leur biologique a été influencée par leur social, qui lui-même a été influencé par leur milieu naturel, etc., etc.
Ouais, c'est vraiment très difficile de se décaler de notre propre culture, surtout que
Ouais.
tout ce qui est toutes les productions culturelles auxquelles on a accès, même quand c'est des productions culturelles qui sont de cultures légèrement différentes, bah, c'est toujours quand même assez proche de chez nous. Et
Oui.
donc voilà, c'est vrai qu'on a tendance, quand on voit des cultures très différentes sur certains points, à essayer de faire une d'analyser ce qu'ils font, mais vraiment avec notre propre grille de
Ouais.
lecture. Et parfois, c'est juste pas possible, ça ne permet juste pas de comprendre.
Exactement.
Et ça, c'est vrai que je pense que l'ethnologie ou l'anthropologie et la psychologie interculturelle, enfin des branches comme ça qui ont des points communs à certains niveaux, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de se rendre compte qu'il y a des modes de pensée qui sont radicalement différent du nôtre, et c'est pas juste qu'il y a des variations, c'est qu'il y a des fondements qui sont pas les mêmes, et du coup
Ouais.
on sait pas vraiment les analyser avec notre grille de lecture, on sait juste pas possible, quoi. Et ça,
C'est
c'est
ça, c'est
difficile à
ça.
imaginer.
C'est ça, c'est vraiment difficile de s'extraire. Déjà, il faut admettre dans un premier temps qu'on a une grille de lecture et puis ensuite, ouais, il faut réussir à essayer de s'en détacher le plus possible, mais tout en comprenant bien qu'on ne peut pas complètement s'en détacher. Mon directeur de recherche m'avait parlé une fois d'une situation assez compliquée pour lui dans laquelle il s'était retrouvé. Il avait travaillé pendant 10 ou 15 ans dans le Pacifique, et puis il était avec une société traditionnelle encore comment dire, assez peu contactée à l'époque, qui s'était adonnée à un rituel extrêmement violent envers les femmes. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a une sexualisation de la société qui est très nette et assez violente, en fait, pour nous, en fait, assez violente pour nos conceptions, on va dire. Et il s'était retrouvé donc face à un rituel comme ça, un peu où en fait tous les hommes devaient violenter une femme. Et du coup, lui, en tant qu'homme, s'est retrouvé dans une situation très compliquée parce qu'il était à la fois là en tant qu'ethnographe, donc que public, mais à la fois il était aussi intégré dans cette société avec qui il travaillait depuis une dizaine d'années. Et il avait un prisme où de frapper quelqu'un, pour lui, c'est de la violence, et eux, ils avaient un prisme où ce n'en est pas. Et il s'est retrouvé dans cette situation où il a dû essayer de dire, bah, moi, dans mon monde, ça ne se fait pas, du coup, enfin, allez-y, enfin, je ne participe juste pas. Mais ça, par exemple, c'est une situation qui est extrêmement compliquée.
Ouais, ça ouvre un peu la question de la place des observateurs dans les sociétés qu'ils observent finalement, parce que c'est effectivement très compliqué à plein de niveaux. Parce que
Ouais.
si on parle de cultures dans lesquelles il y a plein de touristes, d'étrangers, c'est une chose, mais si on parle de groupes de personnes qui vivaient, enfin en tout cas jusqu'à une certaine époque, qui vivaient vraiment très décalés du reste
Très
du
isolé,
monde,
ouais.
très isolés, bah, la présence d'un observateur, peu importe la place qu'il prend, ça impacte beaucoup la société et ça impacte l'observation de la société aussi d'ailleurs.
Ouais, énormément. Et puis les missionnaires ont joué un rôle, les missionnaires chrétiens ont joué un rôle assez pas très joli, quoi, dans les années 70-80, parce que c'est surtout là, en fait, que les derniers peuples non contactés ont été mis face à nos sociétés, en fait. Il y avait déjà à l'époque ce qu'on appelait des explorateurs ou encore des grands reporters ou des photographes qui se rendaient dans ces sociétés-là depuis la nuit des temps. Bon, peut-être pas, non, peut-être pas depuis la nuit des temps, mais des voyageurs, il y en a toujours eu. Et les choses se passaient quand même relativement bien. Et c'est vrai que c'est les missions catholiques et les missions de colonisation avant qui ont mis beaucoup à mal, ouais, comment dire, les particularités culturelles qui pouvaient exister. Et en Amazonie particulièrement, ça a eu des impacts assez dramatiques sur la population. Parce que sur le reste des populations, bon, on peut se dire que le monde est comme ça et qu'on va vers une espèce de normalisation culturelle du monde. Et en tant qu'anthropologue, si on veut rester neutre, on peut juste voir les choses comme ça. Par contre, quand on regarde l'Amazonie, il y a quand même eu tellement de morts, enfin, tellement de surtout là avec le Covid, avec l'exploitation. J'ai fait une vidéo là-dessus parce que ça me désole un petit peu. Il y a des assassinats de caciquiers amazoniens. Ouais, c'est assez violent ce qui se passe en Amazonie depuis les années 70-80.
Ouais, c'est vrai que les missionnaires, qui sont en général des missionnaires catholiques, ils ont une longue tradition de destruction culturelle et de tentatives d'assimilation forcée, où leur objectif c'est souvent de faire disparaître les croyances religieuses des gens pour
Tout à fait.
les transformer, enfin les convertir au catholicisme un peu de force, quoi.
Tout à fait. Il y avait beaucoup d'utilisation du tabac, par exemple, de rendre des autochtones accros à la cigarette. Comme ça, les missionnaires pouvaient revenir parce qu'ils fournissaient du tabac en échange. Il y avait aussi des techniques en laissant des objets qui n'existaient pas et qui, du coup, devenaient nécessaires, comme, je sais pas, des casseroles, des machettes, des choses comme ça, de laisser traîner ça près des lieux où vivaient les autochtones, et puis comme ça, ils se rendaient indispensables, etc. Et ça, ouais, c'était des techniques que je trouve un petit peu vicieuses, au final. Il y a une société qui est connue, entre guillemets, pour être une société inaccessible, etc. Ce sont les sentinelles qui vivent sur l'île d'Irandjaya, près de l'Inde, et dont on a encore entendu parler récemment parce qu'ils ont tué un touriste qui venait à leur rencontre. Ça me fait un peu rire parce que, en fait, c'est juste des gens qui ont envie qu'on leur foute un petit peu la paix. Et puis c'est tout. Il faudrait juste faire ça, en fait, tout simplement. Et il y a très peu d'anthropologues qui, effectivement, sont capables de déterminer qu'est-ce qui se passe en Irandjaya. Il y a très peu d'anthropologues qui y sont allés. Et il y a très peu d'anthropologues qui essayent d'y aller, en fait, depuis très longtemps. Depuis les années 60, je crois, les anthropologues, ils ont laissé tomber, en fait, l'Hidi Rangjaya.
Et
Ils n'y vont plus.
ça veut dire qu'il y a eu des gens qui ont pu quand même rentrer dans leur société ou jamais alors?
Oui, il y en a eu, il y
Il y
en
en a
a eu
eu.
beaucoup. Enfin, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu à l'époque, effectivement,
Ok.
des grands explorateurs, des photographes, au début du XXe siècle. Il y en a eu parce qu'on a énormément de photos et en fait, on a aussi énormément de textes. Enfin, énormément. C'est relatif, mais on a des textes. Ethnographie sur les sentinelles, ça existe complètement. C'est pas du tout un peuple qui est hostile à la rencontre avec autrui, c'est juste
OK.
un peuple qui a compris au bout d'un certain temps qu'il fallait un petit peu se protéger parce que
Ouais.
sinon, avant de pouvoir s'intégrer à la société globale, une société autochtone, elle va d'abord forcément être pillée, elle va forcément être un petit peu bousillée.
Ouais.
C'est ça qui est un petit peu triste, c'est
Ouais.
qu'une société autochtone va pas s'intégrer facilement dans la société globalisée.
C'est vrai que quand on voit tout le trajectoire historique de ces sociétés, enfin celles en tout cas qui sont un peu connues, dont on parle dans les médias, il n'y a pas l'air d'en avoir une seule qui en a bien bénéficié finalement.
Ouais.
C'est historiquement, c'est une catastrophe pour quasiment toutes les sociétés, quoi.
Ouais, j'essaye d'y penser en même temps, mais effectivement, même si on réfléchit à des très grosses communautés, type les Amérindiens, bon, bah voilà, on sait très bien comment ça s'est passé, la colonisation. En Alaska, c'est la même chose. Il y a eu, ouais, forcément, un moment où il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de pauvreté, il y a eu beaucoup de choses qui sont très mal passées dans un premier temps, et après, il y a eu peut-être une intégration. Et comment dire, une forme d'intégration. Mais bon, c'était un petit peu aussi par dépit, j'imagine, parfois. Et dans le
Oui,
Pacifique, ouais.
il y a aussi, je pense, le fait que même si ces personnes s'intègrent à nos sociétés, à nous, dans une certaine mesure, c'est très difficile pour les personnes qui en viennent d'arriver aux critères qui, pour nous, sont nécessaires pour s'intégrer dans la vie active, pour avoir un travail, etc. Et donc, c'est des gens
Ouais.
qui sont un peu condamnés à ce qu'une partie de leur société soit au chômage, tombe dans l'alcoolisme, dans la
Tout à
drogue
fait.
ou dans l'errance, parce que c'est inévitable, en fait. C'est juste difficilement possible autrement, dans un premier temps, en tout cas, quoi.
Tout
Ça, c'est
à fait,
assez
ouais, mais...
désastreux.
Et encore, dans un premier temps, moi, j'ai vécu en Australie après mes études pendant un moment, et bon, l'Australie est colonisée depuis 200, 250 ans. Les aborigènes sont toujours dans des ghettos. Et, ou alors, s'ils sont en ville, il faut voir dans quel état, quoi. C'est vraiment à des arrêts de bus, souvent sous l'emprise d'alcool, etc. Et moi, ça me sidérait en Australie parce qu'il y avait des mecs qui, donc, d'origine aborigène qui s'habillaient comme ça avec des espèces de tenues traditionnelles et puis qui venaient devant l'Opéra Sydney et puis qui jouaient du didgeridoo. Des trucs comme ça. Et puis en fait, si on restait un petit peu plus tard dans la journée, qu'est-ce qui se passait? Le mec, à 19h, il remettait ses fringues, il enlevait ses peintures sur le visage, et puis il rentrait dans son ghetto, et il faisait ses 2 heures de bus pour rentrer chez lui. Et je pense qu'il devait faire partie de ceux qui s'en sortaient peut-être le mieux.
C'est ça.
Et moi, je me souviens qu'une fois, hein, j'étais dans un tourbus pour aller visiter, je sais plus quoi, un paysage connu. Et on est passé devant une réserve aborigène et le mec au micro, il vendait ça comme Disneyland, quoi. Vraiment, voilà, c'est là qu'ils font leur rituel traditionnel, mais enfin, comme un mélange entre un zoo et Disneyland. Et la vérité, c'est que si tu tapais sur Google le nom de ce ghetto, en fait, bah, tu te rendais compte que c'était un endroit où il y avait une misère sans fin, que, enfin, voilà, où il y avait 80% de la population qui était au chômage. Enfin, donc non, l'espèce de discours enchanté de on fait des peintures par terre et puis enfin, ça
Ouais,
m'avait un peu agacé, quoi.
c'est assez terrible. Les sociétés ont un peu évolué depuis l'époque de l'Expo de 58, mais pas tant que ça finalement.
Ouais, pas tant, vraiment pas tant, vraiment pas tant quoi. Quand tu vas dans un musée en Australie, bon peut-être pas partout, mais dans les grands musées, type musées nationaux, tu vas surtout avoir un étage avec écrit art aborigène et puis t'as n'importe quoi dedans,
Ouais.
plein de trucs
Ouais.
mélangés qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
Ouais,
Enfin,
c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça me fait penser aussi cette question du traitement des aborigènes et autres, et aussi les missionnaires. Il y avait une info dans les médias là, il n'y a pas longtemps, je crois la semaine passée, au niveau du Canada, où ils avaient retrouvé des charniers avec plusieurs centaines d'enfants morts. Sur des sites
ouais.
d'anciens pensionnats au Canada où en fait ils prenaient en fait les enfants des autochtones, enfin les vrais autochtones d'il y a longtemps quoi, où ils prenaient leurs enfants, ils les arrachaient à leur famille pour en gros les changer pour que ça soit plus des enfants indiens mais que ça soit des enfants
Ouais.
canadiens bien intégrés quoi, enfin, un truc vraiment
Oui.
abominable. C'est
Ça
pas vieux
aussi.
quoi, ça
Non,
date
c'est
de
pas vieux. Et puis
1950 donc
ça a aussi eu lieu en Australie. Enfin, ça a eu lieu dans tous les
Un peu
grands pays
partout
qui ont
ouais.
été. Ouais, dans tous les grands pays qui ont
Ouais.
été colonisés. En Australie, ça s'appelle. Il y a un nom pour ça. Ça s'appelle le phénomène des générations volées.
Ouais. C'est
Bon.
ça.
Et puis il y a des gens qui font des recherches pour expliquer que une génération volée, ça serait. Comment dire, le point de départ de certaines maladies mentales qui pourraient conduire à l'alcoolisme, etc. Enfin, voilà, mais c'est ouais, ça s'appelle des générations volées et puis c'est très récent et moi ça, bon, je sais pas, l'être humain il est un peu décevant des fois.
Tout à fait. Ouais, et ici au Canada, de ce que j'avais vu, il y avait eu quand même à peu près 160 institutions de ce genre-là qui dépendaient directement de l'Église catholique d'ailleurs.
Ouais.
Et pas partout dans le pays, donc c'est vraiment un projet de masse, quoi, hein, vraiment de.
Tout à fait. Soit les enfants étaient mis dans des familles blanches qui faisaient tout pour en faire des enfants blancs, soit par blanc, j'entends européen, hein,
Ouais.
soit ils se faisaient tuer, quoi.
Ouais,
Ouais,
c'est ça.
simplement.
C'est assez horrible.
Ouais, mais quand on lit moi j'ai lu, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée dans l'anthropologie, c'est que je lisais beaucoup d'autobiographies d'autochtones amérindiens. Je sais pas, quand j'étais petite, j'avais une passion pour, je sais pas ce que c'était, le truc, les chevaux, j'en sais rien, mais j'aimais beaucoup l'imagerie amérindienne, on va dire, et je lisais beaucoup enfin beaucoup tout ce que je trouvais en fait en termes d'autobiographie d'anciens chefs amérindiens. Puis j'ai lu des trucs un peu durs des fois. Hein. On est ouais, de justement quoi, des autobiographies qui se passent pendant la colonisation, avec des prêtres catholiques, des missionnaires, des. Enfin bon, c'est dur, je trouve.
Du coup, ceux qui sont sur le rig et qui ferment un peu les contacts, finalement, c'est peut-être les seuls qui seront plus longtemps préservés de cette tragique histoire qui les attend, quoi.
Ouais, mais après ça en fait c'est surtout l'histoire je trouve du monothéisme. En anthropologie on étudie quand même énormément la religion et le monothéisme a cela que étant donné qu'il a un dieu unique, que d'autres sociétés et d'autres dieux c'est quand même vachement problématique. Et du coup, il faudrait imposer ce dieu unique à des sociétés qui sont polythéistes. Et il s'avère que la plupart des sociétés traditionnelles sont quand même dans des formes de polythéisme. J'ai pas envie de dire polythéisme parce que c'est pas vrai, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a du chamanisme, il y a plein de choses, mais dans des formes de polythéisme où en tout cas on ne croit pas en un dieu unique. Et du coup, ouais, l'arrivée des monothéismes au milieu de ça a été un petit peu un pavé dans la mare, quoi. Enfin, ça a été un peu le début du règne de la destruction d'autrui au profit de ses propres croyances, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a eu des phénomènes très intéressants, anthropologiquement parlant, suite à ça, qu'on appelle les syncrétismes. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus, où les sociétés traditionnelles ont fait des espèces de mélanges à leur sauce, des croyances qu'on tentait de leur imposer avec leur propre point de vue qui était radicalement tellement opposé à celui des chrétiens que ça a donné lieu à des croyances qui sont surréalistes. Enfin, le concept de croyance est un peu surréaliste, mais au Vanuatu, il y a une société qui pense que le prince Philippe, que le roi d'Angleterre, c'est Dieu, à cause de plein de petites suites d'idées comme ça. Tout simplement, il y a dans leur croyance, les ancêtres vont vers le ciel. Bon, bah, ils ont vu. Ah oui, et aussi dans leur croyance d'avoir énormément de possessions matérielles, ces signes d'une élite sociale, on va dire. Ils ont vu ces Américains arriver sur des bateaux cargo, dans des avions cargo, avec plein de victuailles dedans, et bah, ils ont pensé que c'était des divinités. Du coup, il a commencé à y avoir le culte de John Froome, parce que les Américains, les GI qui arrivaient sur les îles du Vanuatu se présentaient en disant Hi, I'm John from America, et du coup, c'est devenu John Froome, en fait, tout simplement. Donc, d'abord, il y a eu le dieu John Froome, et puis après, par une espèce d'escalade comme ça de petites choses, on en est arrivé à croire dans certaines sociétés que le prince Philippe, bah, c'était Dieu. Et je trouve ça fou. Ça s'appelle un syncrétisme. Et c'est peut-être le meilleur moyen de survivance d'une culture traditionnelle.
Ouais, cette vidéo-là sur ce sujet-là était vraiment très intéressante, effectivement. Et en plus, bon, là, c'est un exemple particulièrement marquant, mais il y a plein de syncrétisme dans les sociétés qu'on connaît déjà un petit peu, en Asie, par exemple. Enfin,
Oui,
ouais, donc ça, c'est.
je pense que même nous, hein, entre les certains anciens paganismes ruraux qui existaient et qui même peut-être existent encore, et nos modes de vie, oui, il doit y avoir aussi quelques
Tout à
syncrétismes
fait,
que peut-être on va plutôt appeler légendes urbaines plutôt que syncrétisme, mais oui, c'est oui. C'est moi, je trouve ça, ouais, je trouve que c'est je trouve ça mignon.
Et ouais, du coup, t'as aussi fait une vidéo sur un sujet qui intéresse pas mal certains sceptiques. T'as fait une vidéo sur un monstre mythique, en fait, qui est
Ouais,
le
carrément.
Bunyip en Australie. C'était marrant de voir cette vidéo-là, parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'aime beaucoup, enfin, du côté des sceptiques, on appelle ça la cryptozoologie. Donc c'est l'étude des cryptides, donc les cryptides étant les monstres mythiques. Et c'est vrai que en général, souvent quand je vois des contenus qui parlent de monstres mythiques, bah, c'est plutôt effectivement sur certains podcasts sceptiques. Et là, ça m'a fait rire de voir une vidéo du coup et anthropologique qui parlait d'un de ces monstres mythiques. Donc il y a le
Ouais.
Bunyip australien. Bunyip, c'est comme ça qu'on dit?
Bunyip, je crois, il disait là-bas. Mais bon, je pense pas qu'on soit arrêté sur une prononciation. Mais ouais, mais en fait, je sais plus d'où était partie l'idée de cette vidéo, mais je me souviens que pendant le voyage, pendant que j'étais là-bas, j'avais visité les Three Sisters. C'est une grande forêt d'eucalyptus. C'est assez connu, les Blue Mountains, on appelle ça aussi. Et il y a ces trois rochers, et puis il y avait toute une espèce de mythe autour de ça, selon lequel il s'agissait de trois jeunes aborigènes qui avaient été transformés en pierre par leur père, parce qu'il y avait une espèce de guerre entre plusieurs clans. Et que du coup, pour les protéger, elles avaient été transformées en pierre, mais qu'après la guerre avait tué toute leur tribu, et que du coup, elles resteraient pierre à jamais. Donc il y avait ces trois rochers avec ce mythe autour. Et puis moi, en ayant étudié l'anthropologie, je me suis dit, putain, mais c'est bizarre, parce que quand même, les aborigènes ont très peu de culture de la guerre. Ils vivaient sur un territoire qui était tellement immense, et ils étaient si peu, qu'au final, quand des sociétés se rencontraient entre elles, c'était plutôt super positif. Et du coup, dans toute la mythologie aborigène, parce que finalement, pour comprendre une société, il faut étudier sa mythologie, hein. Quand on a compris comment une société visualise la création du monde, on comprend comment elle fonctionne, ça marche un peu comme ça. Et du coup, voilà, dans leur mythologie, il n'y a aucune histoire de guerre, et il y a aussi très peu d'histoires d'amour non plus. Donc je trouvais ça un peu étonnant, et puis j'ai fait mes recherches, et en fait j'ai découvert que non, c'était l'histoire de ce monstre, enfin ce monstre. Des aborigènes vivaient sur, encore une fois, un territoire tellement grand, avec tellement d'animaux assez impressionnant qu'on pensait qu'il y avait cet animal qui existait et qui aurait pu tuer des gens. Et l'histoire, ça serait que ça serait pour se protéger de cet animal que un chaman aurait transformé les membres de sa tribu, pas seulement trois jeunes filles en pierre, mais tout le monde en arbre, en pierre, en ceci, en cela, parce que cette bête aurait été en train de passer. Ensuite, pourquoi les aborigènes pensaient que cet animal existait? Bah, probablement parce que c'est un animal qui a dû exister des dizaines de milliers d'années auparavant, quand les premiers aborigènes sont arrivés en Australie, et que du coup, il s'est perpétué dans les contes et les mythes en n'existant plus après. Mais voilà, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que je me suis dit, mais enfin, ça aurait été très bien de raconter cette histoire. Pourquoi il fallait inventer une histoire de guerre et d'amour qui colle très bien avec nos croyances européennes, alors que la vraie histoire, c'est l'histoire d'un animal mythique. Et c'est très bien un animal mythique aussi.
Tout à fait. Ouais, ok, alors peut-être il y a encore un autre thème que tu avais abordé dans une vidéo dont je voulais te parler un petit peu. Bon, il y a plein de thèmes intéressants, mais on va pas pouvoir tous les aborder, parce que sinon on va passer la soirée sur Zoom.
Ouais.
Mais tu as fait une vidéo aussi sur les sacrifices humains, et je trouve que c'est un sujet intéressant. Alors, celle-là, je l'ai pas encore vue en fait, je regarde chronologiquement, je suis un peu plus loin qu'à moitié, donc je ne sais pas ce que tu racontes, mais
OK.
il y a une chose que je trouve intéressante par rapport à la représentation qu'on a de ces tribus, c'est par rapport au sacrifice humain, donc à la violence envers eux-mêmes et à la violence envers les autres. C'est vrai qu'il y a un peu cette espèce de stéréotype dans la culture, qu'il y a des sociétés comme ça traditionnelles qui sont très violentes, qui vont attraper les étrangers, les torturer, les sacrifier à je ne sais pas quel dieu. Et finalement, en fait, on se demande un peu, qu'est-ce qu'il y a comme réalité derrière ça? Est-ce qu'il y a vraiment eu des sociétés qui ont fait ça, enfin, sans être attaquées elles-mêmes, évidemment?
Bah déjà, faut juste déjà déterminer qu'est-ce que c'est que la violence. Parce que ce qui va être de la violence pour nous n'en est pas forcément pour autrui. Nous, effectivement, on va voir un sacrifice humain comme quelque chose de violent. Et encore aujourd'hui, parce que le sacrifice humain fait partie des traditions païennes qu'on a eues dans le bassin méditerranéen pendant toute l'Antiquité. Enfin, c'est pas propre aux cultures d'Amérique du Sud, même si on l'associe beaucoup, mais c'est pas propre à l'Amérique du Sud. Ça a existé un petit peu partout, dans les pays celtes, enfin, un peu partout. Et il faut ouais, déterminer déjà qu'est-ce que c'est que la violence, parce que la violence, ça peut être quelque chose de verbal, ça peut être quelque chose de physique, ça peut être les deux, ça peut. Il y a des gens pour qui être sacrifié pour un dieu, c'est pas violent, c'est un honneur. Et on retrouve ça notamment chez les Incas. Oui, c'est ça, c'est les Incas. Les Incas sacrifiaient énormément d'enfants. Et on pourrait croire que c'est terrible et que les familles dont les enfants étaient enlevés pour être sacrifiés étaient donc c'était un enfer. Bah en fait, pas du tout. C'était une vraie fierté parce que sacrifier, étymologiquement parlant, c'est quand même rendre sacré. Et donc un enfant qui serait enlevé à sa famille pour être sacrifié pour aller dans le monde des dieux, c'est un honneur incroyable. Et puis aussi, il faut voir les conceptions qu'on a de la mort. Pour nous, la mort, c'est une fin. Dans énormément de sociétés, ce n'est pas une fin du tout. En Amazonie, on retrouve énormément de tribus qui, quand ils vont avoir un mort dans leur société, vont lui l'enterrer avec des. Comment dire, des objets de voyage, des gourdes, des sacs, parce qu'ils considèrent juste qu'il va quelque part ailleurs. Donc au final, cette question de violence, elle est super compliquée à déterminer. Enfin, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que la violence, moi je vois ce que c'est la violence pour moi, mais la violence en termes de concept global, je ne sais pas ce que c'est.
Oui, c'est ça. Donc la mort n'est pas forcément vue comme une violence imposée par tout le monde.
Non, pas du
C'est
tout. Il
ça.
y avait beaucoup de gens pour qui c'était OK, en fait, de mourir ou d'être sacrifié ou.
Et est-ce que tu sais, ça, question pop culture, mais est-ce qu'on connaît des sociétés qui sacrifiaient des gens contre leur volonté, genre des touristes ou des voyageurs ou
Bah, alors oui, je pense. Mais encore une fois, est-ce que ces sociétés-là pouvaient avoir conscience que c'était contre la volonté? C'est un peu difficile à déterminer. Après, je suis pas sûre qu'on ait vraiment des preuves. Hein, de... Il y avait aussi en Amérique latine ce qu'on appelait les guerres fleuries. Donc, c'était des guerres où le but était de capturer un maximum de gens qui viendraient de l'ethnie voisine, on va dire, pour les sacrifier. J'ai l'impression que peut-être quand on vivait à ce moment-là, dans cette période-là, c'était un peu le jeu, en fait. C'était soit on est attrapé pour être sacrifié, soit on attrape pour sacrifier. Mais que c'était juste un peu les règles. Et je ne suis pas sûre que du coup, comme c'était les règles du jeu, on y soit vraiment très opposé, peut-être.
Ouais, c'est vrai que ça c'est de nouveau, c'est difficile à comprendre avec notre grille de
Ouais.
lecture, surtout qu'on peut pas facilement aller vérifier en leur posant la question.
Et ouais, parce
Alors,
que beaucoup de culture orale,
est-ce que les gens étaient contents quand vous les avez sacrifiés? Bon,
ouais.
c'est un peu dur d'aller leur poser la question.
Ouais,
Mais
voilà, ouais.
d'ailleurs, pour le public, enfin, et pour toi, si vous n'avez pas vu Midsommar, donc le film de 2019, hein, qui est un film d'horreur basé sur une société enfin, plutôt traditionnelle ou pagan, c'est un peu, je vois comment on dit. C'est une super belle illustration de ça. Je sais pas si toi tu l'as vu ce film, on en a pas mal
Non, ça
parlé.
me dit rien du tout.
C'est un film d'horreur suédois en fait de 2019 qui a fait pas mal de bruit. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'en fait c'est des gens qui se retrouvent dans une société suédoise traditionnelle très peu connue
OK.
et qui bon, ça tourne mal puisque c'est un film d'horreur. Donc il y a des gens qui finissent un peu sacrifiés horriblement ou des gens qui mettent fin à leur vie, mais enfin, c'est un peu horrible, mais ils le font volontairement. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tout le film montre tous les membres de cette société comme des gens qui sont pas du tout malfaisants, en fait. Il n'y a pas de
Ah.
tueurs sadiques, horribles, comme dans presque tous les films d'horreur. En fait, ça a l'air d'être des gens comme tout le monde, et c'est juste que c'est leur culture,
OK.
mais que bah, ils ont des gens qui se sacrifient parce que c'est ritualisé. Une fois tous les 30 ans, ils font un rituel pour vénérer la nature, les plantations, etc. Enfin, ce que la nature
OK.
leur donne. Et du coup, il y a des gens qui se sacrifient volontairement. Et les touristes qui sont là dans le film sont extrêmement choqués de voir les gens qui se suicident, même si c'est tout à fait ritualisé. Et c'est génial de voir les gens là qui essaient de leur expliquer, mais non, c'est notre culture, ils sont contents de le faire. Et t'as les autres qui sont en train d'hurler et qui sont complètement traumatisés parce qu'il y a un mec qui vient de se jeter d'une falaise. Et voilà,
Ok, cool.
ce film est extrêmement bien fait parce qu'à aucun moment, même quand ça devient horrible sur la fin, il ne montre les gens comme étant malfaisants
Ouais.
ou sadiques. Même si, bon, à la fin, effectivement, t'apprends qu'ils font venir quelques touristes de temps en temps pour avoir des gens extérieurs pour se reproduire, parce que sinon ils sont un peu limités entre eux.
Ouais.
Et donc, du coup, il y a des gens qui repartent pas
La
parce que
règle
si.
d'exogamie, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça la règle d'exogamie. Et bon, ils ne les laissent pas repartir parce que s'ils les laissent repartir, ils savent que bah, le reste de la société va leur tomber dessus et qu'ils pourront pas continuer à vivre comme ils vivent. Bah voilà, c'est une belle illustration de tout ça et c'est extrêmement bien filmé. Si vous voulez voir un film d'horreur sans sadisme, sans psychopathe violent,
Ouais.
et sur des sociétés traditionnelles, c'est pas mal.
Avec un autre
Bref.
point de vue, quoi.
Voilà, avec un
Après,
autre
sur
point de vue.
cette question de violence, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que on considère dans le monde qu'il y a 28 sociétés matriarcales. Alors, de dire matriarcales, c'est un abus de langage parce que ce ne sont pas vraiment des sociétés matriarcales au sens d'être l'inverse du patriarcat. Et dans les sociétés qui sont plutôt gérées par des principes matrilinéaires, etc., la violence, ça n'existe pas. Et ça n'existe pas en tant que concept. Ça n'existe pas dans le vocabulaire. Ce sont des sociétés où il n'y a pas et il n'y a jamais eu de prostitution, de viol, et même de bagarre ou de choses comme ça. Et ça,
Ok,
c'est très
ça
intéressant
c'est
aussi.
étrange. Et ça veut dire qu'il n'y a pas non plus d'autres formes de transgression qui sont vues comme, qui seraient qualifiées avec un autre mot que violence, mais qui seraient vues comme quelque chose de déviant et de choquant.
Ça, je sais pas, mais pour ce qui est de la violence physique,
Ok.
ça n'existe vraiment pas.
C'est ça, donc il n'y a pas
Après,
d'agression physique.
Tout à fait.
Ça
Après,
peut.
c'est aussi peut-être dû tout simplement au fait que un patriarcat, c'est un fonctionnement en triangle, c'est un fonctionnement hiérarchisé, tandis qu'un matriarcat, ce qui se rapproche le plus d'un matriarcat, c'est un fonctionnement linéaire, donc sans échelle et sans hiérarchie entre les gens. Et donc forcément, s'il n'y a pas de hiérarchie, pas que entre les gens d'ailleurs, entre les êtres vivants aussi, parce qu'on inclut quand même les animaux, etc. Et c'est peut-être la hiérarchie qui provoquerait la violence, en fait. C'est peut-être ça la thèse qui pourrait être sympa d'aller creuser un petit peu derrière tout ça.
C'est vrai que ça serait intéressant parce que c'est peut-être de nouveau ma grille de lecture, mais j'ai du mal à imaginer une société où il n'y aurait pas des formes de violence, peut-être pas des violences physiques, mais en tout cas d'autres formes de violence, dans le sens où j'ai l'impression que, quelles que soient les cultures enfin, que j'ai vues, même quand il y a des normes qui bannissent un peu certaines formes de violence ou de manque de respect qui existent dans notre société à nous, par exemple, que les gens vont les respecter, mais qu'ils vont trouver d'autres moyens détournés pour être violents sans être violents. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux
Et
dire,
il y a
mais.
une théorie sur les sacrifices humains là-dessus, en fait, que les sacrifices humains auraient permis pendant des millénaires de canaliser la violence interne au groupe. Parce qu'effectivement, il y aurait dans le rapport de l'un à l'autre, il y aurait forcément un moment de friction où une violence aurait besoin d'exister.
C'est ça.
Mais en tout cas, après les sociétés matriarcales, ce sont des sociétés qui sont vraiment pas. Bon, je crois que la plus grande société matriarcale, ils doivent être 1 million de personnes. Ce sont quand même des sociétés très petites et assez isolées et
Ça
assez
change
compl
beaucoup.
ouais. Mais je veux bien croire que plus une société comporte de la hiérarchie entre les membres de ceux qui la composent, plus il y a de la violence dedans. Ça, c'est un truc qui me semble cohérent quand même, malgré tout.
Je pense que la question de la taille joue beaucoup aussi parce que dans les sociétés qui ont une assez petite taille, en général, de ce que je connais, il y a quasiment toujours des formes de justice restauratrice et de
Ouais.
justice très groupale qui
Ouais.
n'existent plus beaucoup dans nos sociétés, même si on les a réinventées un petit peu ces dernières générations avec la justice restauratrice et ses différentes formes. Mais cette justice collective, donc qui se fait avec les voisins, avec le village, avec la famille élargie, avec les ancêtres aussi, etc., elle est difficile à mettre en œuvre dans des grosses sociétés industrialisées comme les nôtres, où les gens sont aussi souvent séparés les uns des autres. Et dans des petits
Ouais,
groupes comme
ouais.
ça, des sociétés très petites, ben ça fonctionne encore, fa ça se met en place encore très facilement, puisque les gens vivent ensemble dans leur petit environnement. Et peut-être que
Tout à fait.
ça contribue beaucoup aussi à diminuer les dérives, ou en tout cas à les canaliser, à les résoudre d'une manière qui est non violente, quoi, non punis
Ouais.
sans punir
Oui,
brutalement.
complètement. Après, dans les sociétés traditionnelles, je pense que la pire forme de violence, au final, c'est le bannissement, parce que d'être exclu de son groupe,
C'est vrai qu'il y a ça.
mon avis, au fin fond de l'Amazonie, il n'y a rien de pire, quoi, que de se retrouver seul. Et d'ailleurs, c'est un truc que les Grecs faisaient aussi. Enfin, c'est pas non plus vraiment propre aux sociétés traditionnelles, hein. C'est quelque chose qui existe. Qui existe. Pourquoi je parlais de ça, je sais plus.
Peut-être que ça permet peut-être de faire aussi disparaître entre guillemets les exceptions statistiques, c'est-à-dire les rares personnes qui seraient quand même déviantes ou violentes malgré que c'est pas dans leur
Ah
culture, tu vois.
oui, c'est ça. Et puis du coup, ça m'avait fait penser à cette idée de justice. Je pense que même si on vit dans une société globalisée et très grande, on vit quand même dans des cercles restreints. On vit en famille ou en groupe avec le travail, ou etc. On vit quand même dans des cercles restreints. Et mine de rien, cette justice, elle pourrait s'appliquer dans ces cercles-là. D'ailleurs, ça existe des histoires comme ça de
Tout à fait, ça
bannissement, par
existe.
exemple.
Oui,
Des
tout
gens
à fait.
qui vont se faire exclure par leurs amis parce qu'ils ont un comportement très discutable ou déviant, ou etc. Mais je pense pas qu'on. Même si on vit dans une société globalisée, la réalité, c'est qu'au quotidien, On vit dans un groupe qui, pour moi, peut s'apparenter à ce qu'on entend dans communauté, dans tribu, dans clan. On vit pas avec, enfin, si sur Internet un petit peu quand même, mais et encore que, mais on ne vit pas avec tout le monde. On vit avec les mêmes codes que tout le monde, mais on ne vit pas avec tout le monde.
Ouais.
Le truc, par contre, l'autre chose que je vois, c'est qu'à la limite, il y a un vrai désenchantement du monde, et puis un besoin de resituer les valeurs peut-être qu'il y a, et notamment les valeurs d'honneur, de justice, de parole, etc. Ça peut être, mais
Ouais. Moi, je pensais aussi par rapport aux personnes qui seraient un peu déviantes. Enfin, moi, c'est peut-être ma grille de lecture occidentale, mais j'ai tendance à penser que quelle que soit la société dans laquelle on vit, il y aura toujours des personnes déviantes, ne serait-ce que pour des raisons génétiques. Parce qu'on a, quand on regarde,
OK.
enfin, ça c'est, là je rentre plus dans la psychologie, mais par exemple, si on regarde la psychopathie, donc les personnes qui sont pas capables d'avoir de l'empathie pour les autres, de comprendre le vécu des autres, bah, c'est un truc qui a l'air quand même en partie génétique et qui se traite pas. Alors après, on peut. Tous les gens qui n'ont pas d'empathie ne deviennent pas des criminels déviants, bien sûr. On peut les
Ouais.
encadrer correctement, mais il y a quand même du coup une partie génétique comme ça qui peut faire que parfois les gens ben, naissent avec des problèmes qui sont en partie causés par la génétique et pas par leur culture. Et que ça, je me dis que
Mais
ça doit exister aussi dans d'autres sociétés probablement, quoi.
ouais, mais est-ce qu'ils naissent vraiment avec c'est quoi? C'est le lobe frontal, il me semble, l'empathie. Enfin, c'est la zone dans le cerveau du lobe frontal. Enfin, bon.
Oui, mais c'est assez compliqué. En fait, on ne sait pas exactement parce que quand tu sais pas vérifier à la naissance
Et ouais.
qui a de l'empathie ou pas, donc c'est toujours de toute façon influencé aussi par la culture, hein, si c'est la
Ouais,
question.
enfin moi, en tant
Mais
qu'anthropologue, du coup, j'aurais plus tendance à penser que ça joue énormément parce que il y a quand même des sociétés qui ont le principe d'empathie et de compassion et de bienveillance qui fonctionnent vachement mieux que dans la nôtre. Et là, on n'est pas sur du génétique, on est clairement sur de la culture. Donc, je sais pas, j'ai du mal à imaginer la place qu'a la nature chez l'être humain. J'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir penser qu'elle est immense, alors que la réalité, c'est qu'elle est vachement faible et que quels que soient les sujets qu'on aborde en anthropologie, on se rend compte qu'en fait, on est vraiment régi par la culture. La place de la nature, elle est extrêmement minime, quoi. Même sur les différences physiologiques entre hommes et femmes, elles sont quand même très structurées par
Tout à
certaines
fait.
pensées.
Ouais, c'est
De
ça.
la division de la société, quoi.
Tout à fait. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'exemples de trucs qui sont purement génétiques, sauf si on parle de maladies génétiques, je sais pas, je pense à
Oui.
la trisomie ou des syndromes de Down, des pathologies purement génétiques comme ça, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, c'est très difficile de dire qu'il y a des choses qui sont purement génétiques et en fait on n'a pas beaucoup de moyens de le prouver ou de le vérifier, effectivement, ça
Tout à
c'est vrai
fait. Et
que
puis
c'est.
j'ai lu un livre récemment sur, je sais plus comment elle s'appelle l'auteur, mais sur les médecines traditionnelles, enfin la pensée médicale traditionnelle. Et en fait, ce livre, il débute en disant que les connaissances médicales que nous avons, qui sont très poussées et très utiles, il faut pas oublier qu'elles sont faites dans des laboratoires européens, sur des animaux pour la plupart du temps en plus, et donc sur des êtres vivants qui viennent de notre environnement, enfin, que faut quand même pas, avec nos outils, avec les biais de confirmation aussi qu'on va chercher, etc., etc., et que on en revient à ce que je disais sur l'alimentation tout à l'heure, dont on a parlé au début. Les connaissances sur la génétique et sur les maladies qu'on a, elles sont difficilement imposables à la globalité du monde.
Ouais, c'est vrai. C'est ça,
Alors
il y a
après, il
quand même
faudrait
beaucoup.
voir avec l'archéologie aussi, hein, ce que l'archéologie dit de ça, parce qu'elle doit avoir des informations, en archéologie, il doit y avoir des informations super intéressantes. Je sais qu'on a trouvé des cas de cancer sur des momies qui avaient des centaines de... peut-être pas des centaines, mais des dizaines de milliers d'années. Donc peut-être que les archéologues ont un autre point de vue là-dessus,
Ouais, c'est
mais ouais.
intéressant. C'est vrai que, bah, oui, effectivement, les recherches sont toujours sur des échantillons qui sont assez biaisé. Alors bon,
Ouais.
quand on regarde les choses uniquement en pensant à notre propre culture très proche, bah ça nous paraît pas trop biaisé, mais effectivement, si on pense à l'échelle du monde, bah ça l'est déjà beaucoup plus.
Et ouais,
Il y a
c'est
des
ça,
tonnes
c'est le
d'exemples
problème.
de ça.
C'est ça, le problème, c'est qu'on est tous un petit peu ethnocentrés malgré nous. Et c'est pas grave, hein, c'est normal au final, parce on est éduqué par une société, on en a ses codes, etc. Et c'est aussi très important d'avoir les codes de la société dans laquelle on vit quand même. Mais ouais, il faut réaliser que oui, on est un petit peu ethnocentré quand même.
Tout à fait.
Faut le voir. Au téléphone, on avait parlé des aliens d'ailleurs là-dessus, d'imaginer les aliens comme des gens alors que autant ils ressemblent à des cailloux, quoi.
Oui, et que justement, leur place justement dans toutes ces sociétés dont on parle, ils sont pas en train de voir des soucoupes volantes passer dans le ciel et de
Ouais.
dire qu'ils ont vu un petit alien gris, dans la plaine, quoi. C'est
Ouais, c'est ça.
pas ce qu'ils racontent du tout, donc
Non, non, que c'est
c'est.
juste une forme de vie extraterrestre dans le sens propre de extraterrestre. Donc, en dehors de la Terre, quoi.
Je trouve c'est toujours drôle de penser que ce genre de choses comme les ovnis, si on devait croire que c'est vrai, ça voudrait dire qu'en fait ces ovnis ne survoleraient que certaines régions du monde parce qu'on n'en entend
Ouais.
jamais parler ailleurs, quoi.
Ouais, bah ouais,
C'est
c'est
toujours un
ça.
peu spécial. Et inversement, il y aurait d'autres phénomènes qu'on observe dans d'autres régions qui n'existent pas chez nous. Alors pourquoi? Voilà, c'est peut-être qu'ils aiment bien la température d'un côté du globe et pas de l'autre, je ne sais pas, mais.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est
Ouais.
ça, 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 ça pousse, enfin, c'est vraiment quelque chose qui amène à relativiser finalement et à avoir le côté très culturel de toutes ces perceptions, de ces phénomènes.
Et ouais, et puis à quel point il y a plein de choses qui nous sont imposées, en fait, hein, même par nous-mêmes. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas, y a pas de jugement de valeur, en fait, là-dedans, hein. C'est juste qu'il faut se rendre compte que nous avons une grille de perception et qu'elle n'est pas universelle et que même si on part sur justement, comme on disait, la médecine, la génétique, etc., c'est peut-être là aussi questionnable parce qu'au final, c'est ça qui est fascinant dans l'anthropologie, c'est que finalement, le pouvoir d'une société, il surpasse un peu tout, hein. Il surpasse le pouvoir du corps, de l'esprit, de la médecine, de la science pure. Et ça, c'est impressionnant, moi, je trouve, et c'est fascinant, surtout.
Tout à fait. Je pense que pour les gens qui nous écoutent, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est quand on n'a pas l'habitude de ces disciplines, hein, anthropologie ou psychologie interculturelle, etc., et qu'on est
Ouais.
tout le temps dans des questions plus de sciences dures ou de débats sur l'existence, la non-existence des choses, on est habitué à être tout le temps dans une forme de jugement qui va être
Ouais.
d'office ethnocentrique, puisqu'on peut juger qu'à partir de nos propres références, on ne peut pas juger
Ouais.
avec autre chose, quoi.
Mais c'est OK ça
Et
aussi d'ailleurs.
oui, tout à fait,
Ouais.
c'est ok, mais du coup, ça nous fait perdre parfois un peu l'habitude de prendre un regard qui est simplement descriptif, quoi, qui est non jugeant. Et ça, je trouve que c'est
Ouais.
vraiment intéressant, justement, l'ethnologie et des disciplines de ce style-là. C'est qu'on réapprend un peu à observer les choses et à essayer de comprendre simplement les interactions de ce qu'on voit, mais sans être dans un jugement de valeur, c'est bien, c'est pas bien, est-ce que ça existe ou pas, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai.
Ouais, toutes ces conceptions
Voilà.
hyper manichéennes en plus qui sont très propres à nous au final, hein, ils sont pas
C'est ça.
universelles du tout.
Tout à fait, et ça amène à négliger en fait certaines parties des connaissances. Il y a un exemple très intéressant que je pense pas mal de nos auditeurs et auditrices connaissent, c'est l'exemple de la parapsychologie en fait dans notre société. Donc c'est l'étude du paranormal en très très bref. Ben, beaucoup de gens ont été uniquement intéressés dans ce domaine à étudier qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui était faux en fait.
Ouais.
Et du coup, bah, ils sont passés à côté, et pas mal de chercheurs sont passés à côté de tout un pan des connaissances qui est simplement le vécu des gens qui vivent des phénomènes paranormaux, en fait. Comment est-ce qu'ils
Voilà.
vivent les choses, d'où ils viennent, quelles sont leurs caractéristiques, comment est-ce qu'ils conçoivent le monde, est-ce qu'ils ont des différences par rapport à ceux qui vivent pas de phénomènes paranormaux, etc. Il y a tout un pan de la recherche qui a dénigré ça et qui a complètement mis ça aux oubliettes, alors que depuis un certain temps, on redécouvre un peu ces recherches avec pas mal de personnes qui bossent là-dessus, qui publient des choses intéressantes sur, non pas est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que les fantômes ça existe, est-ce que le type qui dit qu'il est possédé c'est vrai ou c'est un mythomane, non, mais plutôt quel est le vécu de ces gens, quoi. Essayer de comprendre le phénomène, comment ils ont vécu, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, comment est-ce qu'ils voient le monde. Et là, bah, ça, c'est vraiment super intéressant aussi. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir avoir les deux regards, quoi. Ok, il y a une part y a une part d'intérêt à juger le vrai du faux, bien sûr. Mais il y a aussi un intérêt à simplement comprendre le trajet des choses, leur nature, sans vouloir absolument décider qui a raison, qui a tort et qui est dans le vrai, quoi.
Ouais, complètement. En plus, il y a une anthropologue qui a travaillé là-dessus hein, dans les années 50, 60, qui s'appelle Fabrice Saada, qui a écrit justement, et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'autres écrits là-dessus, sur le fait d'être affecté par la magie. Sur la. Bah, ce que tu viens de dire, en fait, sur les impacts personnels de la magie et la puissance réelle qu'a la magie sur les gens. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres travaux que les siens là-dessus, effectivement, avec ce genre de point de vue-là. Et ça me fait penser à ce que tu disais, ne serait-ce qu'au rapport au temps, en fait, tout simplement. Dans la science dure, on va utiliser les repères historiques et le temps comme un truc un peu indiscutable. Alors qu'en anthropologie, on a beaucoup de mal à utiliser le temps, sauf pour donner des exemples, pour illustrer ce qu'on veut dire, etc. Parce que, ne serait-ce que le calendrier, c'est quand même un concept hyper occidental. Et, enfin non, le calendrier, c'est pas un concept hyper occidental, mais le calendrier qu'on utilise, c'est un concept hyper occidental, et le rapport au temps, il est très, 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 très discutable. Et du coup, si le rapport au temps est changé, et ben dans ce cas, le rapport à l'histoire aussi, le rapport à la chronologie, bon, tout peut être vu avec un autre point de vue, quoi. Vraiment tout.
Oui, et je repensais aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur le pouvoir des sociétés par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on perçoit et comment on le perçoit. Parce que pour rester sur cet exemple de la parapsychologie, c'est une illustration vraiment très bonne de ça. En fait, la plupart des psychologues, si tu poses la question à un psychologue diplômé, ne savent pas ce que c'est la parapsychologie. Ils ne savent pas que ça existe. Alors qu'en fait, il y a des dizaines d'universités qui ont des départements ou des laboratoires de parapsychologie. Par exemple, en Grande-Bretagne, il y a une université assez connue à Édimbourg où on peut faire un doctorat en parapsychologie avec des chercheurs très connus qui publient plein de trucs. Et en fait, c'est tellement mal vu d'étudier la parapsychologie plutôt que simplement la rejeter en disant c'est du bullshit, ça n'existe pas, que on en est arrivé à une situation comme ça où la plupart des gens ne savent même pas que ça existe dans leur propre discipline en fait. C'est un truc assez, je trouve que ça illustre bien en fait ça aussi. Il y a vraiment parfois notre vision des choses nous amène à carrément rejeter une partie de la réalité.
Ouais, complètement, complètement. Ou rejeter, ou juste englober dans autre chose, quoi. Enfin, puis de toute façon, même ça, hein, même réalité, de toute façon, c'est même la réalité, c'est quand même un concept, encore une fois,
Oui,
quoi.
bien sûr.
Ça mange le cerveau un peu, l'anthropologie. Hein. Quand je faisais mes études là-dedans, j'avais des périodes difficiles, hein, de grands doutes.
Ouais, c'est ça qui est passionnant aussi, hein, mais c'est vrai que ça bouscule un peu nos croyances et notre vision du monde, quoi.
Bon, là où il faut arriver, c'est juste à se rendre compte qu'on a des croyances, on a des perceptions, elles sont OK, elles sont complètement acceptables, mais il en existe d'autres et qu'on détient une vérité propre à nous dans une certaine époque socio-culturelle, historique, etc. Et puis voilà. Et à partir du moment où on accepte ça, bah, on peut commencer à essayer d'être un petit peu tolérant, pour de vrai, quoi.
Tout à fait. Ok, bah je pense qu'on commence à avoir pas mal fait le tour en tout cas du sujet. Est-ce que en termes de conclusion, est-ce que tu aurais un message ou une dernière chose à dire aux auditeurs, aux auditrices?
Ben je me souviens qu'au téléphone, on s'était dit qu'on pouvait parler peut-être de science pure dans le concept et dans la place de l'anthropologie dans la science. Et la vulgarisation, ouais, c'était ça en fait, la vulgarisation scientifique et à quel point c'est un truc qui est quand même vachement positif, la vulgarisation scientifique, parce que on est d'accord qu'on n'a pas du tout la même égalité d'accès au savoir. Et que je sais que souvent, j'ai affaire à des anthropologues qui trouvent que c'est nul que je vulgarise la science. Enfin, pas que c'est nul, mais que c'est vulgaire, en fait, tout simplement. Que j'utilise des mots qui sont pas assez précis, etc. Et qui vont venir me taper un peu sur les doigts parce que ce n'est pas assez précis et que je fais une vidéo de 10 minutes qui va vite et où il y a beaucoup d'informations au lieu d'une conférence de 2 heures et demie. Et moi, je voudrais vraiment défendre, en fait, ce truc-là. Je pense que le savoir doit être accessible le plus possible et surtout les sciences sociales, enfin, en fait, surtout les sciences tout court. Et voilà, je voulais dire ça, ouais. C'était un truc qui était important à dire pour moi, ouais, que c'est important que les sciences soient accessibles et que on se divertisse avec des trucs avec lesquels on peut apprendre quelque chose et se divertir en même temps et pas simplement s'abandonner. Voilà.
Bah, on est tout à fait d'accord avec ça, je pense, ici, à scepticisme scientifique et puis dans le public aussi, et c'est pour ça qu'on t'a invité et qu'on a invité beaucoup d'autres personnes avant. Je trouve que c'est clair que la vulgarisation à un niveau accessible, bah, c'est important, parce que c'est sinon on est aussi dans une espèce de mépris de classe, en fait, où on produit
Voilà.
des choses que seulement les intellectuels peuvent regarder, et
Complètement.
ça va pas,
L'entre-soi
quoi.
universitaire,
Ouais.
bon.
C'est ça, il y a différents niveaux, et on peut pas, c'est pas parce qu'on a une vulgarisation assez simple qu'on peut pas aller vers un niveau plus technique après, si on est capable de le faire, mais il y a plein de gens qui n'ont pas cette possibilité, et il n'y a pas de raison qu'on ne rende pas les contenus accessibles pour ces personnes aussi, quoi.
Voilà. Voilà, moi, il y a plein de gens qui ont fait des masters avec moi, qui ont mené ce master-là avec moi, qui, au moment où j'ai voulu me lancer dans la vidéo, m'ont dit: Ah non, mais moi, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour faire cette vidéo. Bon, tu as un master dans une matière, je pense que ça va. En termes de connaissances, on peut y aller, quoi. Mais il y a tellement un entre-soi universitaire que même quelqu'un qui pourrait s'autoproclamer spécialiste de la discipline ne le fait pas parce qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus pour dire qu'on n'est pas assez spécialiste, pas assez légitime, pas assez...
Ouais, c'est ça.
Bon.
Alors que bon, la
Et d'autant plus,
vulgarisation, c'est des infos de base, quoi, donc.
voilà. Et d'autant plus en tant que jeune et en tant que femme. Alors ça, c'est un autre débat.
Oui, parce que c'est sûr que pour les productrices ou les créatrices de contenu sur Internet, c'est encore plus difficile que pour les hommes, hein.
Ouais, il faut
Toutes
beaucoup se
les...
justifier, bah, d'avoir
Voilà.
fait des études, en fait, tout
C'est
simplement.
ça, toutes les réactions sexistes et autres qu'on peut se taper sur les réseaux, c'est pas forcément la joie, quoi.
Ouais, bon. Ça mérite même pas d'y porter d'attention, quoi. Enfin, mais en
C'est
plus,
ça.
bizarrement, souvent, ça vient quand même de gens d'une certaine élite, hein, quand même. Hein,
Ouais, tout à fait.
la demande de justification quant à mes diplômes, etc.
Ouais, c'est ça. Tout le monde se sent plus spécialiste que les spécialistes sur YouTube.
Voilà, c'est ça. Et les spécialistes, eux, ne se sentent pas assez
Voilà,
spécialistes,
c'est ça.
pardon.
C'est ça. Ok, ben voilà, je pense que ça fera une bonne conclusion. En tout cas, je te
Ouais.
remercie beaucoup d'être venu discuter avec moi.
Bah,
Je
avec
pense que c'était vraiment
plaisir.
très sympa
Ouais.
pour le podcast, pour les auditeurs et les auditrices. Et
J'espère que ça va
je...
intéresser un peu la communauté.
Oui, je pense, j'ai pas de doute là-dessus personnellement. Je mettrai en tout cas les liens de ta chaîne, des épisodes qu'on a un peu abordés plus en détail
Yes.
sur la page YouTube, hein.
Ah,
Donc
super.
voilà, si vous écoutez, vous pourrez retrouver les liens comme d'habitude en description. Et ben voilà, pour le reste, n'hésitez pas à partager puisque la chaîne n'est pas encore très connue vu qu'elle est très récente. Et donc, bah voilà, un petit partage, ça peut toujours aider, donner un coup de pouce pour plein de personnes qui sont tout à fait intéressées par ce genre de contenu, mais qui savent pas que ça existe.
Ouais.
Voilà, ça vaut la
Et pour tous les
peine.
gens qui ne savent pas que l'anthropologie existe, parce que mine
Oui.
de rien, il y en a quand même. Ou
Et
qui
pour
pensent
ceux-là
que
aussi.
c'est ce que faisait Indiana Jones aussi, parce que ça aussi.
Oui. Oui, voilà, c'est vrai que pour ceux-là aussi, ça sera intéressant, effectivement.
C'est pas
Ok,
assez
ben.
connu.
Oui. Bah du coup merci à toi et bah voilà, peut-être à une prochaine fois du coup et
Bah, avec
à
plaisir et
bientôt.
merci à toi aussi, du coup.
Avec plaisir.